Nous eûmes bientôt perdu de vue le château de Holzenfels. Ah, je me rappelle maintenant que c'est ainsi que se nomme le château dont son Altesse royale me faisait les honneurs. Puis, un peu plus loin, nous laissâmes la ville d'Oberschlagstein, tout hérissée de tours, puis la ville de Rheinsel, où était autrefois le fameux Königstuhl. Si vous n'êtes pas familier avec la langue allemande, vous allez me demander, cher lecteur, ce que c'est que ce fameux Königstuhl. Bon, je décomposerai donc le mot pour vous faire plaisir et vous direz que König veut dire du roi et Stuhl siège, autrement dit siège du roi. J'offre de parier que malgré l'explication, vous n'en êtes guère plus avancé. Écoutez donc et instruisez-vous. C'était là, au milieu de la rivière, à la place où l'on voit aujourd'hui quatre pierres de moyenne dimension, que se réunissaient les électeurs du Rhin pour délibérer sur les intérêts de l'Allemagne. Et ils se réunissaient là parce que les quatre territoires des quatre électeurs s'y touchaient comme les rayons d'une étoile. Du haut des sièges, on voyait en même temps quatre petites villes, Lahnstein sur le territoire de Mayence, Capellen sur celui de Trèves, Rheinsel sur celui de Cologne, et enfin Braubach, fief palatin. C'est dans la petite chapelle en face qu'en 1400, les électeurs, après avoir terminé leur délibération sur le Königstuhl, déclarèrent l'empereur Venceslas déchu du trône. Le Königstuhl subsista jusqu'en 1802. En 1802, les Français le démolirent. Ce qu'il y a de souverainement triste dans les conquêtes et les révolutions, ce n'est point le sort des rois qu'elles renversent, puisqu'un peu ou un peu plus tard, ces rois doivent mourir. C'est celui des monuments qu'elles détruisent. Quand ils ne savent plus à quoi s'en prendre, le peuple et les soldats s'en prennent aux pierres, et que ces pierres étaient détaillées par M. Fontaine ou sculptées par Phidias, peu leur importe, ils renversent. Et quand ils ont passé dessus, ils croient avoir conquis une liberté nouvelle, ou remporté une nouvelle victoire. Puis vient Saint-Gorge, l'arbant petit port, dominé par les ruines d'un château dont nous avons fait sauter un pan de mur en 1794. Cette fois, la conquête a été faite, chose dont les ingénieurs étaient loin de se douter, au profit d'un aubergiste. Il est entré par la brèche et y a bâti une auberge. Ma compagne de voyage prétendit que c'était cette auberge qui avait été désignée par Houland dans sa belle balade sur la fille de l'hôtesse. Au reste, nous étions arrivés dans le véritable royaume de la balade. Après la fille de l'hôtesse venait la fée Laure, plus connue sous le nom de la Lorelai ou la Laure du Rocher. Et disons que la sirène du Moyen-Âge avait choisi la partie la plus pittoresque du Rhin pour en faire sa demeure. Le sommet du rocher sur lequel elle se tenait d'habitude, sa harpe à la main et attirant les pêcheurs par la séduisante douceur de sa voix, surplombe le Rhin de plus de 400 pieds. L'abîme où s'engloutissaient les imprudents aboie encore comme Scylla, tourbillonne encore comme Charybde au pied de ce rocher. Le Rhin, resserré dans un espace de 200 pas, roule furieusement sur une déclivité de 500 pieds sur 400 mètres et l'écho répète indéfiniment le bruit qu'on lui livre, son de corps ou fracas de canon. Aussi est-ce l'habitude, au moment du passage des bateaux à vapeur, de faire feu d'une petite pièce pour donner aux voyageurs le plus rare de tous les plaisirs, celui de l'étonnement. C'était la troisième ou quatrième fois que je faisais le voyage du Rhin. C'était la première fois que le faisaient mes belles compagnes. J'avais écrit tout un livre sur les légendes qui côtoient les deux rives du vieux fleuve allemand. J'étais donc devenu un précieux cicérone. Après le plaisir de visiter une localité pittoresque pour la première fois, vient le plaisir plus grand encore, de la revoir une seconde avec des gens que l'on aime et à qui l'on fait voir ce que l'on a vu comme on l'a vu. J'avais à chacun de mes bras une charmante créature, la tête renversée en arrière, l'œil souriant, écoutant ce que je racontais. Le temps était beau, le ciel, diapré de quelques nuages, faisait tomber sur cette gigantesque nature de grandes parties de lumière et d'ombre. La poésie était devant moi, autour de moi, en moi. J'avais à la fois, pour le plaisir des sens, à l'horizon de vieux châteaux et à mes côtés de jeunes femmes. L'air était doux, je le respirais, imprégné de bienveillance et de tendresse. S'il était permis à l'homme de dire « je suis heureux », je dirais « j'étais heureux ». La journée passa comme une heure. Puis vint le soir avec tous ses enchantements, avec ses rouges reflets dans les eaux du Rhin, ses tons de ciel, ses verts jaunâtres qu'aucune palette ne peut rendre, ses douces langueurs qu'amène la pensée que l'on va bientôt se quitter, si sympathiques que l'on soit les uns aux autres, pour ne se revoir jamais peut-être, tous ces sentiments fins que fait naître cette heure de la soirée, qui depuis longtemps n'est plus le jour et qui n'est pas encore la nuit, et qui tremble confusément au fond du cœur en voyant monter à l'horizon ce bluet de flammes qui s'appelle Vénus le soir et Lucifer le matin. Enfin, une masse noire trouée de points de feu parut à l'horizon, c'était Mayence. Là, une partie de nous se détachait de nous. Notre belle viennoise, qui s'était déjà écartée de sa route, aimantée qu'elle était d'un côté par Lilla, de l'autre par moi, devait nous dire adieu. Nous prenions, nous, le chemin de fer de Mannheim, but de notre course. Nous arrivâmes à Mayence vers 10 heures du soir. 10 minutes après, nous étions assis à une table prenant du thé, boisson devenue, grâce aux Anglais, à peu près universelle. Ces dames, comme à Coblence, avaient demandé une chambre à deux lits, et moi, j'avais choisi une chambre voisine de la leur. Il faut que la vitalité française soit bien puissante, même transportée à l'étranger. En France seulement, on cause, ailleurs on discute, on pérore, on déclame, on rêve, on s'ennuie. Eh bien, là où est un Français, avec lui, il transporte, si l'on peut se servir de cette expression, l'électricité de la conversation. Mettez un Italien à ma place, il aurait chanté. Un Anglais, il aurait bu. Un Allemand, il aurait dormi. Un Russe, il aurait joué. Nous causâmes, nous, jusqu'à 2 heures du matin. De quoi, oh, ma foi, demander au vent de quel côté il soufflait ce soir-là, et le vent ne saura pas plus de quel côté il soufflait que je ne sais, moi, de ce que nous dîmes. Seulement, la pendule le tinta 2 fois. Nous crûmes que, comme celle du chapeau de l'horloger de ma pauvre amie Delphine de Girardin, elle sonnait les heures folles. Nous consultâmes nos montres, chose à laquelle n'avait pas pu arriver Charles Quint, elles s'accordaient toutes trois et donnaient raison à la pendule. Il fallut se quitter. C'était la première fois que la nuit nous semblait une absence. C'est qu'en effet, le lendemain avait lieu une première séparation, laquelle n'était que le prélude de la seconde. Cette fois, Liliane ne pouvait guère me réveiller pour voir se lever le soleil. Le soleil était tout près de se lever au moment où nous nous couchions. Pour passer encore quelques instants ensemble, il avait été décidé que nous ne partirions que par le convoi de 11 heures du matin. Or, à 8 heures, tout le monde était sur pied. Plus nous nous approchions de l'heure de la séparation, moins la causerie était animée. Les doux sourires, les regards tristes l'avaient remplacée. Les anciens qui ne connaissent pas la mélancolie ne connaissaient donc pas l'absence. Notre ami vint nous conduire jusqu'à l'embarcadère. Là, on dut bien certainement croire qu'elle se séparait d'un père et d'une sœur, car elle fondit littéralement en larmes. si les modernes avaient à représenter la nécessité au lieu de la placer comme les anciens à l'angle d'une place avaient des coins de fer dans les mains, ils la mettraient dans une gare de chemin de fer avec une pendule au cou. Il fallut monter en wagon. Notre ami monta avec nous pour profiter du dernier sursis accordé aux voyageurs. Mais au bruit de la sonnette, il fallut descendre et elle sauta à terre au moment où s'ébranlait le train. Nous nous essuyâmes les yeux, nous nous regardâmes et je dis à Lilia, la charmante femme, comment s'appelle-t-elle? Je n'en sais rien, répondit celle-ci. Je l'avais prise pour son amie intime. Ce n'était pas même une connaissance. Qu'était-ce donc? Eh, mon Dieu! C'était tout simplement ce qu'il y a de plus puissant au monde. Une sympathie. Nous étions retombés dans le tête-à-tête, mais hâtons-nous de le dire. Depuis le moment du départ, notre tête-à-tête avait fait un pas immense. De mon côté, il était passé du désir amoureux à la plus tendre mais à la plus pieuse amitié. Du côté de ma compagne, de la crainte pudibonde au plus confiant abandon. Il s'était créé quelque chose entre nous qui avait pris sa place entre l'amour de deux amants et l'amour d'un frère et d'une sœur, sentiment plein de charme et encore inclassé dans la gamme de la tendresse humaine. Et j'avouerai une chose, c'est que j'étais enchanté d'avoir fait connaissance avec ce nouveau sentiment. Il reposait sur un fond calme et doux, comme un de ces gazons des maîtres italiens, recouverts de tapis et de coussins soyeux, éclairés par un ciel d'azur dont rien ne pouvait ternir la pureté. Pas d'orage possible, puisqu'il n'y avait pas de passion. Liberté d'esprit entière, complet exercice des sens, en somme fraîcheur et calme, grande facilité de vivre, intuition de la félicité d'un monde supérieur. Lilia, comme toutes ses compatriotes distinguées, était d'un esprit très droit. Elle avait reçu une éducation qui côtoyait la science. Avec elle, on pouvait parler de toutes choses et elle comprenait encore lors même qu'elle ne pouvait pas discuter. Quelqu'un qui l'eût vue appuyée à mon épaule, regardant avec doux sourire les lièvres gambader dans la plaine, nous eût pris, j'allais dire, pour deux amants, si je ne me rappelais pas ce que j'ai le double de son âge. Mais nous étions mieux que cela. Nous étions deux tendres amis, prêts de nous séparer, mais certains de garder la mémoire l'un de l'autre. Nous arrivâmes vers le soir à Mannheim. C'était la troisième fois que je repassais par cette mélancolique petite ville d'Allemagne que Goethe a choisie pour le théâtre des amours de Charlotte et de Werther. La scène, il faut l'avouer, est admirablement choisie pour le drame. Château massif, parc solitaire, arbres gigantesques, rues tirées au cordeau, fontaines mythologiques, tout est en harmonie avec la terrible élégie du poète allemand. La dernière fois que j'y étais venu préoccupé par une recherche, celle des documents relatifs à l'assassinat de Kotzebue par Sand. Je m'étais fait montrer la maison de l'auteur de Misanthropie et Repentir, je m'étais fait montrer la prison de Sand. J'avais rencontré sur le lieu même où Sand a été exécuté et qui s'appelle depuis ce jour la prairie de l'ascension de Sand au ciel, Sandsimmelfahrtswiese, le directeur de la maison de force où il avait été enfermé. Enfin, j'avais été faire une visite au docteur Weidemann, qui n'était autre que le fils du bourreau de Mannheim, bourreau lui-même aujourd'hui en vertu de la loi de succession encore en vigueur en Allemagne. Au reste, en Allemagne, les bourreaux ne sont point traités en paria et exclus de la société. Cela tient sans doute à ce que l'exécution, se faisant au glaive, conserve quelque chose de guerrier. Le bourreau allemand est même classé, c'est le dernier des nobles et le premier des bourgeois. Dans les fêtes publiques, il marche entre la noblesse et la bourgeoisie. J'ai raconté quelque part, je ne me rappelle plus où, la cause de cette faveur. Un soir de bal masqué, le bourreau s'introduisit sous un magnifique costume dans le palais impérial et dans un quadrille toucha la main de l'impératrice. Reconnu pour ce qu'il était, l'empereur voulait que, pour expier le crime de lèse-majesté, le tranche-tête eut à son tour la tête tranchée. Mais lui, alors, conservant toute sa présence d'esprit, « Majesté sacrée, dit-il, quand tu me feras trancher la tête, tu n'empêcheras point que la main de l'impératrice n'ait touché celle du bourreau, c'est-à-dire de l'être que le mépris public place au dernier degré de l'échelle sociale. Fais-moi noble, et la souillure n'existe plus. » L'empereur songea un instant et lui dit enfin, « C'est bien, à partir d'aujourd'hui, tu seras le dernier des nobles et le premier des bourgeois. » Depuis ce temps, le bourreau en Allemagne est classé à l'étage indiqué par l'empereur lui-même. Mais il y avait un autre souvenir qui se rattachait pour moi à Mannheim. C'est que ce voyage, ces recherches, cette exploration, je les avais faits en compagnie du pauvre Gérard de Nerval. C'était en 1838. À cette époque, il n'avait encore donné aucun signe d'aliénation mentale. Cependant, pour ses amis, il était évident que la cloison cérébrale qui séparait chez lui l'imagination de la folie était tellement faible que parfois l'imagination faisait à son insu des excursions sur les terres de sa voisine. Moi, qui étais loin de me douter de cette tendance, et dont l'esprit logique aime les choses bien assises, j'avais avec lui des discussions sans fin, lesquelles se terminaient toujours par ces mots qui étaient mieux qu'une prédiction, qui étaient une réalité. « Mon cher Gérard, vous êtes fou !» Et lui riait de son doux sourire et disait « Mais vous ne voyez pas ce que je vois, cher ami. » Et je m'entêtais, voulant qu'il me fît voir ce qu'il voyait. Et alors il se jetait dans des déductions tellement subtiles, tellement ténues, que ses raisonnements me faisaient l'effet de ces flocons de vapeur que le vent disperse en tous sens et qui, après avoir eu les apparences d'une montagne, d'une plaine, d'un lac, finissent par s'évanouir et se perdre comme des fumées. 2 ans après, le pauvre garçon était tout à fait fou, mais d'une folie douce, poétique, rêveuse, très peu en avant de son état ordinaire. Cette cloison dont j'ai parlé s'était rompue, voilà tout. Un jour, un ami commun entra chez moi. Un grand malheur est arrivé ce matin. Lequel ? Notre pauvre Gérard a été trouvé pendu. Où cela ? Rue de la Vieille Lanterne. Suicide ou assassinat ? Oh, je ne sais, il avait passé la nuit dans une maison borgne de cette infâme rue, et ce matin, on l'a trouvé pendu au barreau d'une fenêtre avec le cordon d'un tablier de cuisine. Allons voir les localités. Volontiers, j'ai une voiture à la porte, venez. Nous allâmes. Entre la place du Châtelet, je crois, et l'hôtel de ville, s'étendait une rue misérable, infecte, immonde, servant de ruisseau à un égout grillé, dans lequel en temps de pluie l'eau se précipitait en bondissant comme une cascade sur les marches d'un escalier visqueux. Cet escalier était surmonté d'une balustrade en fer. Sur cette balustrade croassait le corbeau d'un serrurier dont la boutique pleine de feu et de bruit jetait des étincelles de mâche-fer par la porte. Au-dessus des 3 dernières marches de cet escalier s'étendait une fenêtre sombre, cintrée, garnie de barreaux de fer comme celle d'une prison. C'était au barreau transversal que le pauvre Gérard avait été trouvé pendu. L'autre bout de la rue était en démolition. Au centre de la maison, ou plutôt le bouge, où Gérard avait passé la nuit. Un des premiers signes de la folie est l'oubli de soi-même. Il est presque sans exemple qu'un fou ait conservé des habitudes de propreté. La propreté est plus qu'un instinct, c'est une loi de la civilisation. Le bouge était fermé, mais à travers ses fenêtres et ses portes, l'inquiétude intérieure transpirait. On eût dit que ses habitants attendaient une visite de la police. Cette visite ne se fit pas. Je ne sais pourquoi, car beaucoup des amis de Gérard pensent que cette mort ne fut pas l'effet d'un suicide. En somme, suicide ou non, le pauvre Gérard s'en était allé dans le pays de ses rêves, ce qui n'empêchait point que je l'entrasse à Mannheim 3 ou 4 ans après sa mort, aussi complètement appuyé à son bras que s'il était vivant. La meilleure merveilleuse chose que le souvenir. En supposant la mutation des âmes, le jour où Dieu permettra que le souvenir ne tombe pas avec le cadavre dans l'abîme de la mort, il aura donné à l'homme l'immortalité. Il fallut toute la douce mélodie de la voix de ma compagne de voyage pour me rappeler à la réalité. Mannheim était, on se rappelle, le but de notre voyage. C'était à Mannheim qu'elle devait trouver la grande artiste dramatique qu'elle y venait chercher. Lilia avait si grande hâte d'être fixée sur son sort que, quoi qu'il fût 8 heures du soir, elle résolut d'aller faire sa visite à l'instant même. À Mannheim, il n'y a point de place de fiacre. J'offris mon bras, qui fut accepté, et à travers les rues où le gaz n'a point encore pénétré, nous nous acheminâmes bien renseignés vers la demeure de Madame Schröder. C'était naturellement à l'autre bout de la ville. Pendant toute la durée du chemin, nous rencontrions des groupes de bourgeois, maris, femmes, enfants, revenant de soirée. À Mannheim, on revient de soirée à 9 heures. Cela me fit comprendre la petite ville de Picard, et bien mieux, celle de Kotzebue, dont Picard s'est inspiré. Oh, ville honnête, ville calme, ville tranquille, où l'on revient de soirée à 9 heures, où tout le monde est couché à 10, et où les femmes, bonnes mères de famille, qui ne veulent pas perdre leur temps, tricotent au spectacle. Nous arrivâmes enfin en vue d'une petite maison isolée. À chaque groupe, nous nous étions renseignés, et les renseignements successifs nous avaient conduits là. Nous frappâmes à la porte avec une certaine honte. 9 heures sonnaient à la grande église des Jésuites. C'était une heure bien indue. Un seul espoir nous restait, c'est que, comme nous avions affaire à une vieille tragédienne, celle-ci eût conservé ses habitudes de scène et se coucha à 11 heures. Notre espoir ne nous avait point trompés. Madame Schröder non seulement n'était point couchée, mais comme le nom de ma compagnie de voyage lui était connu, elle pouvait nous recevoir. On nous introduisit dans un petit salon où la doyenne des tragédiennes allemandes, la femme qui a été applaudie par toutes les mains ducales, royales, impériales, des princes et des souverains du Nord, assise près du feu devant une table éclairée par une lampe, était occupée à lire tout en caressant un gros chat couché sur ses genoux. Elle le lisait, ma foi, sans lunettes, malgré ses 70 ans. Elle se leva en nous entendant entrer et fit 2 pas au-devant de nous, avec ce sourire placide et doux du génie qui a accompli sa tâche. Lilia, très émue, se jeta dans ses bras. Je crois que la grande artiste aima autant cette façon de procéder que les plus respectueuses formules de la politesse allemande, la plus cérémonieuse de toutes les politesses. Puis ma compagne me nomma, et un « oh » des plus expressifs s'échappa des lèvres de Madame Schröder. « Eh !» me dit-elle en mauvais français, Je vous connais beaucoup, mon cher monsieur Dumas. D'abord par un de mes fils, le pasteur, qui vous porte au plus profond de son âme, puis par mon fils, l'artiste, qui vous traduit et qui vous joue, enfin par ma fille, la chanteuse, qui vous a vu et vous a connu à Paris, n'est-ce pas? C'est bien cela, madame, lui répondis-je, et c'est l'espoir de ne pas vous être tout à fait étranger qui m'a donné la hardiesse de me présenter avec madame chez vous à une pareille heure. À une pareille heure, reprit-elle. En vérité, vous me traitez un peu trop en habitante de Mannheim. Vous oubliez que je suis une citadine des capitales et que j'ai passé 50 ans de ma vie à Vienne, à Berlin, à Munich et à Dresde. Non, vous le voyez, je lisais. Et elle nous montra le livre retourné sur sa table. Excusez ma curiosité, madame, lui dis-je, mais que lisiez-vous? Une nouvelle tragédie où j'eusse eu un bien beau rôle, si je jouais encore la tragédie. Le comte d'Essex. Ah oui, de Laube, m'écris-je. Comment, vous la connaissez? Me dit madame Schroeder étonnée. Sans doute je la connais, répondis-je en riant, comme je connais tout ce qui se fait en Russie et en Angleterre. Vous savez donc l'allemand? Non, mais j'ai un traducteur. Ah, fit madame Schroeder en secouant la tête. Notre pauvre théâtre est bien bas. Auteurs et acteurs sont en décadence. Tout nous vient de France maintenant. Nos grandes lumières sont éteintes. J'ai vu Hiffland, j'ai vu Schiller, j'ai connu Goethe, et il est temps que j'aille les rejoindre. Je trouverai meilleure compagnie là-haut qu'ici-bas, mais pardon, je me laisse aller à mes récriminations de vieille femme. Vous voilà, mes enfants, soyez les bienvenus. Elle nous enveloppa, Lilia et moi, du même regard. Je tendis la main à Lilia, qui serra ma main en souriant. « C'est à vous de parler, dis-je à ma compagne de voyage, seulement parler allemand, et ne vous inquiétez pas de moi. Je m'occuperai, pendant que vous parlerez, à photographier cette chambre dans ma mémoire. » Lilia s'assit près de madame Schroeder, et la main dans sa main lui expliqua le but de sa visite. La vieille artiste l'écouta avec une douce et bienveillante attention. Puis, quand elle eut fini, « Voyons, répliqua-t-elle, dites-moi quelque chose en allemand. Que savez-vous des grands maîtres ?»« Tout. Commençons par intrigue et amour. » Lilia mit sa main sur son cœur. Son cœur battait comme jamais il n'avait fait devant la plus auguste assemblée. Et elle commença. Je savais qu'abaler une libe par peur, de sorte que je ne perdais pas un mot de ce que disait l'artiste, et comme ces légers défauts de prononciation passaient inaperçus pour moi, j'étais ravi de la simplicité et du pathétique de sa diction. Madame Schroeder écoutait de son côté, en donnant de fréquentes marques d'encouragement. Puis, quand Lilia eut fini, « Voyons maintenant, dit-elle, quelque chose en vers. » L'Iliade est un passage de la fiancée de Messine. « Bon, bien, brava !» disait madame Schroeder tout en écoutant la Marguerite au Rouet, « et tout sera fini. » L'Iliade s'assit, renversa sa tête contre la muraille et dit toute la chanson qui commence par ces mots « Mein Ruhe ist bin » Mon repos est loin. Avec une telle tristesse, avec une si profonde mélancolie, que les larmes m'en vinrent aux yeux et que cette fois, ce fut moi qui donnai le signal des applaudissements. Madame Schroeder avait écouté gravement. Elle sentait que ses paroles étaient un arrêt. « Si vous étiez venu ici pour recevoir des compliments, ma chère enfant, lui dit-elle, je me contenterai de vous dire « c'est très bien ». Mais vous êtes venu pour me demander un conseil et je vous dis Il vous faut 6 mois de travail assidu, consciencieux, acharné. Et au bout de 6 mois, vous parlerez allemand comme une saxonne. Pouvez-vous consacrer 6 mois à ce travail ? J'avais compté sur 1 an, répondit Lilia. Alors vous êtes sûr de votre affaire ? Mais avec qui allez-vous travailler ? Avec une grâce charmante, Lilia se mit à genoux devant Madame Schröder. J'ai eu un espoir, dit-elle en joignant les mains et en le regardant avec une expression de prière infinie. Ah, je comprends, c'est que c'est moi qui serai votre maître. Lilia fit un signe de la tête du haut en bas. Il était impossible d'être plus séduisante qu'elle ne l'était en ce moment, avec ses grands yeux bleus fixés sur ceux de la grande artiste. Aussi, Madame Schröder, reprit-elle entre ses deux mains cette charmante tête et rapprochant son front de ses lèvres. « Allons, dit-elle, c'est convenu. Vous serez ma dernière élève. »« Oh, bien reconnaissante, je vous jure !» s'écria Lilia en couvrant de baisers le visage de la vieille tragédienne. Nous la quittâmes à minuit, nous rentrâmes à l'hôtel. Lilia était ivre de bonheur. Le lendemain, nous nous séparâmes. Je n'ai pas revu Lilia depuis cette époque. Mais au mois de juillet dernier, je reçus cette lettre. Mon bon et cher ami, laissez-moi vous faire part de tout mon bonheur. Je viens de jouer en allemand sur les premiers théâtres d'Allemagne, les principaux chefs-d'œuvre de nos grands maîtres. Grâce aux leçons de Madame Schröder, j'ai obtenu un immense succès. Tous mes vœux artistiques sont donc comblés. Je vous écris d'Ostende où je prends les bains de mer. Si je croyais que vous vous souvinssiez encore de votre compagne de voyage, je vous dirais venez me voir. En tout cas, que je vous revoie ou non, croyez à l'affection toute fraternelle que je vous conserve. Mon fils se porte bien et est plus charmant que jamais. Depuis 2 ans, il sait votre nom. Dans 10, il saura vos œuvres. Ce serait un grand regret que je vous dirais adieu. Ainsi donc, au revoir. L.B. Mon premier mouvement fut de me lever pour courir à la police et y prendre mon passeport. Mais, contre mon habitude, je résistais à mon premier mouvement. Il est vrai que le second, le bon cette fois, avait promptement succédé au premier et me disait tout bas « Pourquoi faire ? Tu ne l'aimeras pas plus que tu ne l'aimes comme ami, et tu sais qu'il serait inutile de l'aimer autrement. »